Alors on continue vaillamment notre réflexion sur la résurrection, au sens large. Quelques informations auparavant. D'abord, j'ai disposé sur la table de devant les documents sur les ateliers Buguet, le tract que vous prenez tous, et le dossier de presse que vous prenez si vous voulez. N'hésitez pas à prendre, je n'ai pas mis pour tout le monde, enfin je pense pas qu'il compte exactement, mais n'hésitez pas à en prendre, s'il en manque, il y en a encore d'autres demain, quoi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le prendre, ou à le prendre pour d'autres qui pourraient être intéressés. Voilà. Ou à le consulter sur place, enfin, c'est comme vous voulez, quoi. En tout cas, c'est disponible. Une autre info, parce qu'on parle de Chalon, là. Notre recteur actuel, il arrive de Chalon en Champagne, précisément, où il a été curé. Voilà. Vous le connaissez ?
Ouais. Oui,
ah, ouais, très bien. Ouais. Comment ?
Il est arrivé en 2007 à Chalon.
Ouais, il est arrivé il y a 6 ans, en fait. Il a passé 6 ans là-bas. Donc, il a croisé. Ouais. D'accord. Panne de la paroisse centre-ville, quoi, cathédrale et je sais pas quoi. Chalon. En Champagne sur la Marne. Autre information, ce soir après le dîner, il y aura proposé en tout cas un temps d'adoration eucharistique qu'on vous propose de faire à la basilique. Ce sera à peu près chauffé. Et ce sera à peu près plus beau aussi. Et je serai disponible pour des confessions pour ceux qui le souhaitent aussi pour l'instant là. Voilà. Ce sera donc après le dîner. Et il y aura d'éventuelles retrouvailles fraternelles. Je sais pas quoi. Quelque chose quoi. Je fais tout ça après, faut assumer. Hein. Alors le deuxième volet un petit peu de cette réflexion sur la résurrection. Je l'ai un peu annoncé tout à l'heure, c'est de tenir compte un petit peu de cette fameuse phrase de saint Paul qui dit « Nous sommes déjà ressuscités avec le Christ ». Alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la résurrection de la chair dont on a parlé ? J'ai dit que tout à l'heure on a parlé de la deuxième résurrection, non mais des guillemets à résurrection, et maintenant on parle de la première. De la même manière, puisqu'il y a deux résurrections, il y a deux morts, vous me suivez ? La première et la deuxième, ça va ? Slogan qu'on aime bien faire entrer dans le crâne auprès de nos pèlerins, dans le cœur surtout, à Montlégion, c'est « La vie éternelle est déjà commencée ». Autrement dit, ce que je serai dans la vie éternelle, eh bien je le construis aujourd'hui sur la terre. La vie éternelle, c'est pas une deuxième vie, quand bien même il y aura une nouveauté, il y aura une purification, il y aura une résurrection, il y aura un renouvellement, il y aura un tas de choses qu'on peut appeler nouvelles, la nouvelle alliance, une création nouvelle, enfin il y a plein de choses qui sont de l'ordre du nouveau, mais ce nouveau, il va assumer l'aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc je serai dans l'éternité ce que je suis sur cette terre, tel que je me définis aujourd'hui. Hein, la vie éternelle n'est pas une continuité, ou une deuxième vie, encore moins. Hein. La vie éternelle, c'est moi. Et moi, c'est qui ? Ben, c'est tel que je me serai défini entre ma conception et ma mort. Voilà. Le moi, le Martin de l'éternité, c'est celui-là. Cherchez pas, il n'y en a pas d'autre, ce sera moi. Voilà, ce sera nous. Mais cette existence... puisqu'elle est déjà éternelle, elle est déjà marquée par la marque de Dieu, précisément. La préface, en fait, ce slogan « La vie éternelle est déjà commencée », on ne l'a pas inventé, on l'a trouvé dans la liturgie, puisque c'est dans la sixième préface des dimanches, vous pouvez voir dans les missels, ceux qui aiment ça, qui dit ceci « Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, donc l'Esprit qui a déjà ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Esprit nous est déjà donné. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. » Donc en fait, ce dont on a parlé ce matin, enfin ce matin tout à l'heure, la résurrection de la chair, c'est l'accomplissement d'un processus qui est déjà commencé en nous. Certes, limite de son établissement, mais notre espérance c'est son achèvement, son accomplissement. Déjà ressuscité, donc le catéchisme le rappelle, numéro 1002 du catéchisme de l'Église catholique. S'il est vrai que le Christ nous ressuscitera au dernier jour, là on parle de la résurrection de la chair, il est vrai aussi que d'une certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. En effet, grâce à l'Esprit Saint, la vie chrétienne est dès maintenant sur terre une participation à la mort et à la résurrection du Christ. 2, 12, et 3:1. Enseveli avec le Christ lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui. Parce que vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. Donc là, on se situe dans la... un petit peu la situation du pèlerin sur la terre. Notre cité n'est pas sur la terre, notre cité est dans les cieux. Nous sommes déjà citoyens des cieux, dit aussi saint Paul. Nous sommes concitoyens des saints. Notre état civique, civil, si je puis dire, c'est ça. Et c'est important de se le dire. Tout à l'heure, je disais c'est important de voir d'appréhender déjà ce qui nous est promis, sans la réduire, de vraiment l'accueillir comme un don, cette perspective de la résurrection de la chair. Je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup, je perds le fil. Mais important aussi, si nous pouvons prendre conscience que nous sommes déjà arrachés à ce monde des ténèbres, transférés dans le royaume de Dieu. Je vous cite encore saint Paul, hein, il y a transfert, il y a des transferts de foot. Et nous avons été transférés du royaume des ténèbres, du prince des ténèbres, qui nous tenait captifs. Nous avons été transférés dans le royaume de Dieu qui nous fait concitoyens des saints, citoyens du ciel. Et ça, c'est la situation présente. Et c'est important de prendre conscience de ça, de se dire, c'est pas, il n'y a pas la vie sur terre, tout va mal, et puis il y aura un jour, il y a une frontière à passer, la vie au ciel, tout ira bien. Il y a cette continuité, il y a cette préparation, il y a cette invasion, je dirais, en fait, de Dieu qui récupère là où nous sommes, et nous sommes déjà en marche vers la cité sainte. Donc quelques phrases toujours chez saint Paul. Romains 5:5. L'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Bon, c'est un peu riche comme phrase, mais... L'espérance ne déçoit point, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Il faut prendre conscience de ce qu'on a reçu. On était baptisé, bon d'accord, et ça change quoi? Bah, ça change tout. On a été confirmé, ça change tout. Je vis chrétiennement, je reçois l'Eucharistie, ça change quoi? Bah t'as juste la vie éternelle, quoi. Accessoirement. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Mais évidemment, on n'a pas conscience, c'est pas perceptible. C'est dans la foi, dans l'espérance. Mais c'est la réalité, c'est pas du virtuel, c'est du réel, là. Romains 8:23. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons, nous aussi, intérieurement, dans l'attente de la rédemption de notre corps. Donc le thème de l'attente, de la patience, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, la rédemption du corps. Sauf que cette attente, on ne la vit pas à partir de rien, en disant, ben, on n'a rien, un jour on aura tout. Mais on espère tout, et on a déjà le début. Hein, les prémices, ou parfois on a aussi les arts, c'est ben, ce qu'on verse, ce que vous avez versé à Montlignon avant d'arriver, peut-être, je sais pas. Un engagement. Non mais c'est intéressant, ce terme de prémice et d'art, c'est un terme un peu juridique. Mais c'est un engagement commun en fait. Dieu s'est engagé pour nous. Dieu nous a fait une promesse de vie éternelle. Dieu, pour bouger Abraham, il a fait une promesse. Alors on peut se dire, bah, on s'en fiche, l'important c'est la gratuité, on répond à Dieu, même s'il n'y a pas de promesse, on serait mis en marche. C'est pas vrai. Abraham s'est mis en marche parce que Dieu a fait une promesse de vie, une promesse de descendance. Et nous nous mettons en marche aussi parce que Dieu nous a fait une promesse de résurrection, de vie éternelle. Et on ne peut pas dire, ben non, mais c'est pas important la promesse de Dieu, nous on le fait comme ça pour plaisir. Non, Dieu s'est engagé pour nous, quoi. Dieu s'est engagé en nous donnant déjà le début de ce qu'il veut nous donner en plénitude un jour. Et nous on s'est engagé parce qu'on est confirmé librement en principe. Voilà, ordonné librement aussi. Marié librement, tout ça. Baptisé peut-être pas, mais. Corinthiens 1, 22. Dieu nous a aussi marqués d'un sceau et nous a donné, à titre d'art, le Saint-Esprit dans nos cœurs. Ce don du Saint-Esprit, c'est pas un... Enfin, vous allez en parler longtemps pour prendre conscience un peu de ce que c'est, mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu, quoi. C'est don, enfin, c'est beau. On est habitué à parler de résurrection, de vie éternelle, ça nous paraît... C'est le langage habituel, mais enfin, c'est fou ce qu'on dit, quoi, normalement. On devrait souhaiter au plafond à chaque mot. 2 Corinthiens 5, 2. Aussi gémissons-nous dans cette tente, dans l'ardent désir que nous avons d'être revêtus de notre demeure céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tant que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire dans cette chair, nous gémissons accablés parce que nous voulons revêtir l'autre par-dessus, afin que ce qu'il y a de mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Mais c'est important pour saint Paul de dire, il y a l'homme et l'état futur, mais n'oublions pas que nous avons déjà le futur un petit peu. De plusieurs morts et plusieurs résurrections. Alors on en trouve des traces de cette idée-là dans plusieurs choses. Il y a saint François qui en parle notamment dans son cantique de la création. Vous connaissez au moins le début, loué sois-tu Seigneur pour frère soleil, pour sœur lune, pour sœur eau, etc. Et il y a une strophe un peu moins connue sur la mort. Cette strophe est la suivante. Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur notre mort corporelle. Donc déjà, saint François il est juste chrétien, il loue le Seigneur pour la mort corporelle. C'est pas que c'est un folle dingue, il est juste chrétien. Il a juste compris l'évangile. Mais j'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, heureux ceux qu'elle trouvera dans ses très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera pas mal. Voilà la strophe in extenso. Donc, c'est des bonnes références, il parle de la seconde mort. C'est pas un terme qu'il invente, en fait, c'est dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, à plusieurs endroits. Deux d'abord, Apocalypse 2, 11. Celui qui a des oreilles qu'il entende, ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Quelle est cette seconde mort? Apocalypse 20, 6. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. La seconde mort n'a pas pouvoir sur eux. C'est compliqué. 21.8. Les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Ici référence à Matthieu 10.28. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, première mort, et l'âme, voilà la deuxième mort. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Donc deux morts de résurrection. La première, la deuxième. Mais peu importe, on a compris qu'il y a ce qui concerne le corps et ce qui concerne l'âme. Donc il y a la mort du corps à laquelle répond la résurrection de la chair. Et il y a la mort de l'âme à laquelle doit répondre cette première résurrection que nous vivons aujourd'hui. La deuxième résurrection, elle sera à la fin, la dernière. Le rétablissement de la mort corporelle. Mais il y a plus grave que la mort corporelle. Il y a la mort de l'âme. Cette mort de l'âme, encore, c'est un terme analogique. C'est pas la mort au sens de l'anéantissement, le retour au néant, la disparition. C'est la mort au sens d'une existence en dehors de Dieu qui est la vie. Voilà. C'est pour là qu'il faut craindre. Mais cette mort-là, elle est guérie déjà, aujourd'hui, par cette première résurrection à laquelle nous participons, ce premier don de l'Esprit Saint, qui démarre cette vie divine en nous, eh bien, épargne notre âme de cette mort, et quand bien même il y aura la mort physique, donc celui qui participe à la première résurrection, celle d'aujourd'hui, celle du baptême, pour cela, la seconde mort n'a pas pouvoir sur eux. La mort de l'âme n'a pas pouvoir sur eux. Ça n'empêchera pas de passer par la mort physique. Mais en tout cas, bon, le but, c'est de montrer qu'il y a bien une vie, ce mot de résurrection, une vie de l'âme, parce qu'il y a un risque de mort de l'âme. Mais il y a déjà une antidote, il y a déjà un don, il y a déjà un don de l'Esprit Saint, il y a déjà un don de Dieu pour déjà vivre le début de cette résurrection. Voilà. Après, les termes sont piégés parce qu'ils sont ambivalents parfois. C'est le problème. Bon, je ne vous ai pas perdu en auditoire quand je parle de ça, mais ça va. La vie éternelle est déjà commencée. Et elle est commencée en particulier dans les sacrements. Comment est-ce que nous, concrètement, aujourd'hui, Nous vivons de cette résurrection, de cette première résurrection qui nous est déjà donnée, ce don de l'Esprit qui nous est déjà donné. Voilà, je vous cite, je montre tout à l'heure la Commission théologique internationale de 1992, qui dit « Par la naissance baptismale de l'Église et de l'Esprit-Saint, nous ressuscitons sacramentellement dans le Christ ressuscité. » Entre parenthèses, dire qu'on ressuscite, ça veut dire qu'on était mort, quoi. Ça veut dire qu'on est né mort. Je suis violent en disant ça, mais quand les dans le dialogue entre le parent et le prêtre qui baptise, ça s'est perdu un petit peu aujourd'hui, il y avait un dialogue initial où le prêtre demandait aux parents « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Le baptême. Que donne le baptême ? La vie éternelle. Voilà. On a bien conscience que l'enfant qui nous naît dans les bras, ben, il n'a aucune raison de prétendre en soi à la vie éternelle, quoi. Nous prétendons à la vie éternelle parce que nous avons été sauvés par le Christ, et il faut que ce salut du Christ vienne jusqu'à nous. Mais c'est pas inné, quoi. On devrait plus réfléchir sur le don de la vie éternelle en considérant que c'était pas gagné, quoi. Il n'y a aucune raison d'y prétendre. Encore moins la résurrection de la chair, tout ça, quoi. C'est vraiment un don de Dieu. Ressuscitions, donc. On doit considérer la résurrection de ceux qui appartiennent au Christ comme le sommet du mystère qui a déjà commencé au baptême. Pour cette raison, elle se présente comme la communion suprême avec le Christ et avec nos frères, et aussi comme l'objet le plus élevé de l'espérance. Ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours, dit saint Paul aux Thessaloniciens. Tienne, la vie éternelle, pardon, est déjà commencée donc dans les sacrements, j'y reviendrai tout à l'heure. Elle est commencée dans la vie chrétienne en général. Ça veut dire tout le temps, dans toute notre vie, qu'elle soit familiale, professionnelle, sociale. Toute notre vie est censée être chrétienne. Le pape François disait, donc récemment, à l'Angélus du 6 avril 2014, ça va faire un an quand même, il disait « Notre résurrection commence quand nous nous décidons d'obéir au commandement de Jésus. » Quand est-ce que tu ressuscites ? Ben, quand tu commences à t'attacher à Jésus. Quand au commandement de Jésus en sortant à la lumière, à la vie. Quand les masques tombent de notre visage, si souvent nous sommes masqués par le péché, les masques doivent tomber. Et que nous retrouvons le courage de notre visage original créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Notre résurrection commence quand nous nous décidons d'obéir au commandement de Jésus. Le cardinal Ratzinger à l'époque, dans son livre sur la mort et l'au-delà, en 2005, dit « L'homme est dans le ciel quand est dans la mesure où il est auprès du Christ. » Donc c'est pas réservé au ciel finalement. On a compris qu'on est déjà au ciel. Nous sommes citoyens des cieux. Et nous sommes dans le ciel quand est dans la mesure où nous sommes auprès du Christ par qui l'homme trouve le lieu de son être en tant qu'homme dans l'être de Dieu. Le ciel est donc d'abord une réalité personnelle. Ça peut surprendre, alors que Benoît XVI, dans d'autres lieux, fait un développement très important sur le salut en commun, l'aspect communautaire du salut. Ça veut dire qu'on ne va pas au ciel tout seul. N'empêche que, de ce point de vue-là, le ciel est d'abord une réalité personnelle, parce que c'est dans la mesure où moi, personnellement, je m'attache à Jésus, qui m'entraîne avec mon prochain, donc c'est aussi communautaire. Mais ça fait aussi du ciel, est-ce que je suis ou pas au ciel, ben, ça dépend de moi en fait. Ça dépend de ma disposition intérieure, et pas seulement aussi de mes actes, parce que décider d'obéir au commandement de Jésus, ça suppose de poser des actes. C'est pas seulement l'intention intérieure, mais aussi la façon concrète dont je vis, qui fait que je participe à cette résurrection ou pas, qui fait que je suis déjà au ciel ou pas, quoi. On a déjà cité tout à l'heure, « Telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, au présent. » Donc c'est intéressant qu'il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre du présent. Et je le ressusciterai au dernier jour, au futur, comme l'accomplissement de ce processus de rédemption. Le baptême, justement, Benoît XVI en parle dans l'encyclique sur l'espérance, Spe Salvi, de Benoît XVI en 2010. Je sais pas quelle est la date, mais c'est au numéro 10 de l'encyclique. Je sais plus la date. Partir pour faire réfléchir un peu à la vie éternelle. Je voudrais partir de la forme classique du dialogue par lequel le rite du baptême exprimait l'accueil du nouveau-né dans la communauté des croyants et sa renaissance dans le Christ. Le prêtre demandait d'abord quel nom les parents avaient choisi pour l'enfant. Et il poursuivait par cette question : que demandez-vous à l'Église ? Réponse : la foi. Et que donne la foi ? La vie éternelle. Dans le dialogue, les parents cherchaient pour leur enfant l'accès à la foi, la communion avec les croyants, parce qu'ils voyaient dans la foi la clé de la vie éternelle. Comme hier, c'est de cela qu'il s'agit dans le baptême. Quand on devient chrétien, non seulement d'un acte de socialisation dans la communauté, non pas simplement d'un accueil dans l'Église, les parents attendent plus pour le baptiser. Ils attendent que la foi dont il fait partie, dont fait partie la corporéité de l'Église et de ses sacrements, lui donne la vie éternelle. À titre d'anecdote, moi j'étais marqué quand j'étais diacre, j'étais en paroisse à Cuba, et j'ai préparé un peu des parents au baptême de leur enfant, et on portait pas grand chose souvent, et je pense que c'est pareil en France, et je leur demandais pourquoi vous voulez baptiser votre enfant, quoi. Et j'avais 9 fois sur 10 la réponse, ben, pour qu'il ait la santé, pour qu'il réussisse dans la vie. Alors moi je leur disais, ben, les chrétiens ne sont pas réputés être en meilleure santé que les autres, ça se saurait. La réussite dans la vie c'est pareil. Alors ce qui est beau et positif, c'est que les parents en faisant cette démarche ont une espérance de vie, ils l'expriment par la réussite, ils l'expriment par la santé. Voilà. Alors on partait de ça. Mais il faut quand même bien avoir conscience, nous, que le baptême ne donne pas la santé, ou donne la sainteté, donne la vie éternelle, donne la foi. C'est la garantie contre la seconde mort, mais pas contre la première. Et même la première mort sera au contraire peut-être le passage vers la vie éternelle. Loué sois-tu, Seigneur, pour faire notre mort corporelle, c'est-à-dire que la seconde mort, la mort du corps même, elle est remise, elle est récupérée par Jésus pour être dans le plan de la sanctification même, le plan de la résurrection. Mais c'est intéressant de... Je parle de cette expérience un petit peu avec les Cubains pour dire, même nous chrétiens, comment est-ce qu'on regarde le sacrement du baptême, quoi ? Est-ce qu'on a un regard de foi suffisant, assez profond pour discerner ce qui se passe ? On ne peut pas, de manière absolue évidemment, mais... aussi donc qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle du présent. Alors, c'est pas Jésus dit pas celui qui boit ma chair, qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle, mais il l'a déjà. Après on pourrait toujours dire c'est fragile, c'est pollué par le péché, c'est tout ça, d'accord, mais il y a les prémices, Aussi à la messe dans le rite de pénitentiel au début de la messe qui se conclut toujours par la phrase suivante. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Donc là aussi, quand il y a des démarches de pénitence, il y a toujours ce rappel que c'est pour la vie éternelle. Continue ? Bon. Un petit peu. Mettons, puisque maintenant la mort physique est remise du côté de la vie, Dieu a arraché la mort à Satan, en quelque sorte, pour en faire le lieu d'un passage vers la vie. Et donc ça doit changer complètement, ça change complètement notre propre regard sur la mort elle-même, sur la mort du corps. Puisque la mort du corps est peut-être même l'ultime passage, l'ultime acte qui permet la sanctification de l'âme, qui permet donc la résurrection, il y a la fameuse expression qu'on appelle « mourir dans le Seigneur ». Et dans les lustres de la basilique, un peu art déco, il y a cette phrase qui vient de l'Ancien Testament, je ne sais plus où, je trouverai ça tout à l'heure peut-être, qui dit « Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur ». C'est fou dans la foi chrétienne de pouvoir dire ça, « Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur ». Dans le catéchisme, au numéro 1010, il y a même écrit que la mort a un sens positif. En fait, c'est écrit « La mort avec le Christ, la mort chrétienne a un sens positif ». Mais quand même, c'est fou de dire ça. Pouvoir récupérer la mort et la mettre dans le positif, dans ce qui pour nous est positif, eh ben, faut admettre un certain changement par rapport à cette condition humaine mortelle. Voilà. Mais de fait, c'est la réalité. Le Christ a récupéré la mort, il nous a arraché au pouvoir de la mort, il a volé la mort à Satan, en quelque sorte. En mourant pour nous, il a fait de la mort un passage vers la vie. Et donc, maintenant, nous pouvons envisager la mort comme un acte de la vie, en quelque sorte. un acte de la vie éternelle. Et donc, je demande la Commission théologique internationale qui fait référence au catéchisme. On ne parvient pas à cet aspect positif de la mort, on ne parvient, pardon, à cet aspect positif de la mort que par la manière de mourir que le Nouveau Testament appelle la mort dans le Seigneur. Pardon, c'est l'Apocalypse en fait. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse 14, 13. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand François d'Assise dit « Loué sois-tu Seigneur pour sœur notre mort corporelle », c'est pas un mystique foldingue, il est juste chrétien, quoi. Il a juste compris que la mort a changé de statut et que maintenant elle a un passage vers la vie. Quand Sainte Thérèse dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », elle est juste chrétienne. C'est un regard chrétien sur la mort. Cette lueur est désirable en tant qu'elle mène à la béatitude et se prépare pour une vie sainte. Ça ne veut pas dire c'est bien de mourir. Non, en soi, ça reste un mal, la mort. Mais puisqu'elle conduit à une vie sainte, elle peut être considérée comme désirable. Puisqu'on est la communion avec le Christ après la mort, eh bien, ça explique que certains saints, nombreux même, eh bien, ont exprimé un désir mystique de la mort. On se rappelle saint Paul qui disait ben, « Je sais pas, je suis partagé entre vouloir mourir et rester avec vous, parce que je veux être avec le Christ. Voilà. » Je ne choisis pas, mais j'ai quand même un désir de mourir pour être avec le Christ. Chez les saints, c'est fréquent. Sainte à laquelle la grâce de Dieu nous appelle et pour laquelle il nous donne son aide, le lien originaire entre la mort et le péché est comme rompu. On a dit, la mort est la conséquence du péché. Mais ce lien originaire entre la mort et le péché est comme rompu, non pas parce que la mort serait supprimée physiquement, la mort physique continue d'exister, mais commence, pendant cette vie sainte vécue dans la grâce, commence à mener à la vie éternelle. Cette manière nouvelle de mourir, c'est une révolution, on pourrait dire ça, il faut comprendre. Cette manière nouvelle de mourir est une participation au mystère pascal du Christ. Les sacrements nous préparent à cette mort. Le baptême dans lequel nous mourons mystiquement au péché nous consacre par la participation à la résurrection du Seigneur. Quand il reçoit l'Eucharistie, qui est un remède d'immortalité, le chrétien reçoit l'assurance qu'il participe à la résurrection du Christ. Ça aide à valoriser les sacrements aussi. On est chrétien, on pratique, on va à la messe le dimanche, etc. Est-ce que c'est qu'une habitude ou est-ce que vraiment j'ai le sentiment en profond de participer, de mettre en œuvre ma résurrection, ma vie nouvelle dans le Christ ? Mort dans le Seigneur, la mort dans le Seigneur implique la possibilité d'une autre manière de mourir, qui ne serait pas dans le Seigneur, c'est-à-dire la mort en dehors du Seigneur, qui conduit à la deuxième mort. Il meurt deux fois lui. Si on ne meurt pas dans le Seigneur, on meurt deux fois. Si on ne meurt pas dans le Seigneur, ben notre âme aussi meurt. Dans cette mort, la force du péché par lequel la mort est entrée dans le monde manifeste d'une manière suprême sa capacité à séparer de Dieu. La séparation de Dieu, elle peut être éventuellement définitive. Si on ne prend pas ce chemin unique du Christ qui, par sa mort, nous amène à la vie, eh bien, si on ne choisit pas ce chemin vers la vie, si on n'accepte pas de mourir dans le Seigneur, en quelque sorte, on mourra, mais pour rien. Vous voyez l'importance de notre foi, en fait, de ce que nous avons reçu de l'Église, cette foi que nous sommes un processus de résurrection qui est déjà commencé, qui assume, qui intègre la question de la mort physique, qui ne l'explique pas, qui ne le justifie pas, mais qui l'assume, et qui explique aussi que ben, il n'y a pas d'autre chemin pour le ciel que c'est que être participant du mystère du Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Après, chacun son chemin pour y être introduit, y être configuré. Il n'y a pas que le baptême sacramentel pour ça. Mais au ciel, il n'y aura que des personnes, que des saints, qui auront été marqués du mystère de mort et de résurrection du Christ, que ça ait eu lieu par le baptême sacramentel dans l'Église, ou que ça ait eu lieu par d'autres moyens que Dieu connaît. Mais il n'y aura que des gens baptisés au ciel. Par ce mystère de mort et de résurrection du Christ. Il y a sûrement beaucoup de chemins pour aller au ciel, mais il y a un seul sauveur du monde, c'est le Christ. Il y a sûrement plein de gens qui seront sauvés, j'espère tous, en dehors de l'Église telle qu'on la connaît sur la terre, peut-être sans connaître Jésus, mais tous ils seront sauvés en tout cas par le Christ, à cause de ce mystère de mort et de résurrection. Abstrait. Le véritable agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'y en a qu'un qui peut faire ça. Donc c'est le seul à pouvoir sauver un homme. Le pardon du péché obtenu par la mort et la résurrection du Christ n'est pas purement juridique, mais renouvelle l'homme intérieurement. C'est important ça. Ce pardon de Dieu, c'est pas un contrat, un accord qu'on fait, c'est un renouvellement de l'homme intérieurement, donc ça engage aussi la liberté de chacun. Plus encore, il l'élève au-dessus de sa condition naturelle. Le Christ a été envoyé par le Père pour que nous recevions l'adoption des fils. Si d'une foi vive nous croyons en son nous, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous entrons ainsi dans la famille de Dieu. Le projet du Père est que nous devenions conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Confère Romains 8, 29. En conséquence, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ devient notre Père. Puisque nous sommes fils du Père dans le Fils, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Le thème de l'héritage, c'est un thème important, pensez à l'enfant prodigue par exemple, c'est un thème biblique important. Nous sommes co-héritiers du Christ, nous héritons de la même condition que la condition du Fils par excellence. Apparaît le sens de la vie éternelle qui nous a été promise comme participation à l'héritage du Christ. Participation à l'héritage du Christ. Notre patrie est dans les cieux. Puisque par rapport au ciel, nous ne sommes pas étrangers ni des hôtes, mais concitoyens des saints de la maison de Dieu. Alors j'ai bien conscience que c'est un peu des phrases tout ça, mais je vous l'ai dit parce que c'est le message de la foi. Et après, j'ai bien conscience que ça n'a pas tellement de sens si on ne cherche pas à la vivre concrètement. Hein? Le but de poser la résurrection, c'est de montrer à la fois la promesse qui est offerte, et à la fois qu'on s'y achemine en étant déjà animé par cette vie de résurrection qui est liée à l'attachement au Christ que nous avons, cet attachement au Christ qui passe par les sacrements, qui passe par l'Église, qui passe par la vie chrétienne. Pour nous en tout cas. Voilà. On passe ici-bas de cité permanente. Nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle de l'avenir. Ainsi, le chrétien, comme un étranger et un pèlerin, se hâte d'arriver par une vie sainte à la patrie, où il sera pour toujours avec le Seigneur. En disant ça, on ne dit pas du tout un désintérêt du chrétien ou de l'Église par rapport à la condition des hommes, à la vie terrestre. Hein? Toute la doctrine sociale de l'Église, par exemple, témoigne que tout en disant l'Église n'a son accomplissement que dans l'éternité, la cité sainte, Jérusalem, néanmoins l'Église veut donner à l'homme dans les conditions de sa vie terrestre, bien les conditions de sa sanctification. Donc on n'est pas en train de se dire on va s'isoler dans des chartreuses à faire que prier, à être en oraison, en lévitation. C'est pas ça du tout la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie incarnée, mais qui veut installer le ciel sur la terre. Convertissez-vous, le royaume des cieux est proche. Vers le haut, attachez-vous aux réalités d'en haut, etc. C'est pas dire que tout ce qui est en bas est mauvais. Ça veut dire qu'il faut par exemple user des biens de la terre comme si on n'en usait pas, les user comme moyen et non comme finalité. Voilà où se trouve l'enjeu concrètement. Il ne s'agit pas de dire bah, tout ça c'est nul, ça n'a aucun intérêt, la création, etc. Ou le travail de l'homme. Tout est beau, ça dépend juste de la façon qu'on a de s'y attacher. Quoi. Clure un petit peu. Pour vous dire comment ça doit engager un regard chrétien sur le monde. On a parlé du regard chrétien de François d'Assise et de Thérèse de Lisieux sur la mort. Il y a un regard chrétien sur le monde. Et ça, c'est très pratique aujourd'hui. Je veux dire, on a toutes les raisons humaines du monde de dramatiser la situation dans laquelle nous sommes, économique, familiale, sociale, internationale. On peut dire que tout va mal. mais c'est pas un regard chrétien. Et il y a un enjeu, à mon avis, à lutter contre le regard qu'on voudrait nous imposer sur le monde. Et nous sommes censés apporter au monde un autre regard, justement. Puisque nous avons un autre regard sur la mort, un autre regard sur la vie, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, nous devons apporter autour de nous ce nouveau regard. J'aime bien aussi faire remarquer que nous, chrétiens, on ne se distingue pas forcément par la charité. On aimerait bien dire, ben nous les chrétiens, ce qui fait notre caractéristique, c'est la charité, c'est l'amour de Dieu. C'est ça qui nous différencie du reste du monde. Ah ben ouais, sauf que force est de constater qu'il y a des gens bien plus charitables que moi en dehors de l'Église. Donc je peux pas dire que nous, chrétiens, notre différence, c'est ça. Par contre, je pense qu'on peut dire que notre différence à nous, chrétiens, c'est le regard sur la mort. Là, pour le coup, personne ne peut l'égaler, quoi. Aucune culture, aucune religion n'a le regard que nous avons sur la mort, qui est un regard qui est plein d'espérance. Et si nous sommes chrétiens, si les apôtres ont quitté Jérusalem, c'est pour annoncer qu'il y avait quelqu'un qui était mort et qui est ressuscité. Nous sommes là parce que le Christ est ressuscité. Voilà. Fondamentalement, ce qui nous fait chrétiens, c'est ce regard inégalable sur la condition humaine marquée par le mal et par la mort, qui est un regard d'espérance, donc qui dépasse le regard strictement humain et qui ouvre à la perspective de l'avenir, de la vie éternelle. Alors, quelques applications concrètes. De David, le cantique de David, on le dit, nous, dans l'office du bréviaire, alors peut-être pas vous tous, mais n'empêche que ça fait partie de la prière de l'Église, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui doit former nos cœurs. Et David dit, « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance, la majesté, le prestige et la splendeur. Tout dans les cieux et sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, le souverain qui domine l'univers. De toi vient la richesse et la gloire. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, vigueur et puissance, dans ta main, tout grandit et s'affermit. » Alors, est-ce qu'on serait pas parfois un peu schizophrène? À temps en temps, dans un dîner avec des amis, surenchérir sur tout ce qui va mal. Et puis, gentiment, à la messe, adhérer à ce que je viens de lire, là, que tout va bien. Tout est dans la main de Dieu. Et on est où, nous? Enfin, on choisit ou... Au moins tous les dimanches, vous vous dites, après notre Père, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ouais? Enfin, je veux dire, je provoque un petit peu, je sais bien. C'est pas évident, je pense, que les chrétiens, en disant ça, ont conscience que ça vaut pour tout. Et que c'est pas le dimanche à la messe, bah toi, le règne, la puissance, la gloire, ça d'accord. Quand on a la messe, ça va bien. Et puis le soir à 20h, devant les infos, bah non, c'est la misère, quoi. Faut savoir. Faut être sur le monde. Dans le Sanctus, on chante « Le ciel et la terre se remplissent de ta gloire ». Vous êtes d'accord avec ça, que le ciel et la terre se remplissent de la gloire de Dieu? Quand vous regardez autour de vous, il faut juste savoir de quelle gloire on parle. Pas la gloire aux yeux des hommes, mais la gloire aux yeux de Dieu. Cette gloire-là, elle est présente partout. Le ciel et la terre se remplissent de sa gloire. Cette gloire, elle n'est pas encore manifestée son plein épanouissement. Ça, on l'attend toujours. Nous, on le vit dans l'espérance. Mais il faut pouvoir assumer ce regard, dire, chanter, sans complexe, sans que ça non plus dénigre une certaine préoccupation de la situation dans laquelle nous sommes, ou à toutes les époques d'ailleurs, peu importe. Concile Vatican II, dans la constitution Gaudium et Spes, d'abord au numéro 39. Certes, nous savons bien qu'il ne sert à rien à l'homme de gagner l'univers s'il vient à se perdre lui-même. Mais l'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Parler de l'eschatologie, c'est un petit peu aussi la raison de mon topo, on pourrait se dire, j'ai commencé par là ce matin, est-ce que parler de résurrection de la chair, franchement, ça va m'aider à vivre? Eh bien, le Concile dit, cette perspective, l'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelques ébauches du siècle à venir. En fait, la motivation de travailler dans ce monde-là pour le rendre meilleur, c'est tout simplement de rendre présent ce qui sera notre futur. Tiens, de la même constitution. L'Église enseigne en outre que l'espérance eschatologique, donc l'espérance liée aux fins dernières, ne diminue pas l'importance des tâches terrestres, mais au contraire, elle en soutient l'accomplissement par de nouveaux motifs. Donc l'intérêt de parler de tout ça, c'est pas de dire « Ah, ben ce serait bien plus tard, mais pour l'instant, ben, on se tourne les pouces, on attend. » Mais c'est de dire comment cette vision que j'ai de mon accomplissement, de notre accomplissement aussi en tant que communauté, en tant que famille humaine, en tant qu'Église, comment je vais travailler dans les ressources terrestres pour que ça se mette en place. Et du coup, ça a beaucoup de sens d'avoir dans ce sanctuaire un lieu où on prie pour les défunts et un lieu où on travaille. Parce que moi, je trouve ça génial. Enfin, dans le plan de Dieu, je ne sais pas ce que le père Buguet avait dans la tête, mais c'est cet outil-là de pouvoir expliquer. S'il nous manquait un des deux, on serait amputé de la moitié de quelque chose, quoi. On ne peut pas prier et faire entrer les gens dans la perspective de la vie éternelle si on est chrétien, sans leur parler de comment ça se passe sur Terre pour mettre en place cette vie éternelle qui est déjà donnée. Et comment concrètement ça se fait? Bah, comment tu travailles, Denis, avec tes ouvriers? Comment tu travailles, Odile, avec ton cuir? Comment tu travailles, Patrick, avec tes savons? Bah, la question, elle est là. Et comment tu... Puisque le Patrick de la vie éternelle sera toi, comment ça se met en place aujourd'hui, là? Mais si on n'a pas cette perspective, non plus, le travail n'a pas de sens. Pourquoi faire des efforts dans tel ou tel sens? Qu'est-ce que ça a comme sens de promouvoir une fraternité, une solidarité, si cette fraternité, cette solidarité n'est pas conservée au ciel, ce qu'on appelle la communion des saints? Oui. Donc ça s'éclaire mutuellement. Et parfois dans l'Église, il y a un choix qui se fait, parce qu'on a du mal, l'équilibre est toujours difficile à tenir. Alors il y a ceux qui se réfugient dans la mystique et qui pensent qu'au ciel, et qui dénigrent les tâches terrestres et l'intérêt de la vie sur la terre. Et puis il y a ceux, chrétiens de gauche par exemple, qui disent l'importance c'est la solidarité, machin, la résurrection, on s'en fout. Et dans les deux cas, on n'est pas dans le bon équilibre. Voilà. Pardon pour l'expression pour chrétiens de gauche, c'est une caricature mauvaise. Mais on connaît ces deux types de risques, enfin de tentations, quoi. Voilà. Et on a de la chance à Montlignon de pouvoir essayer de conserver, d'associer en tout cas, d'avoir cette histoire d'association entre la préoccupation du ciel et la préoccupation de la terre, parce que ce que nous construisons de beau sur la terre sera conservé au ciel, et c'est parce que ce sera au ciel que nous le voulons déjà sur la terre. Voilà, donc j'espère que vous pouvez envisager votre vie sur la terre à la lumière, en levant les yeux vers l'espérance qui nous est offerte, et en recevant l'éclairage pour dire comment je dois favoriser la vie sur la terre, que ce soit dans ma famille, dans ma société, dans mon village, et bien à la lumière de ce que l'homme est fait pour être dans la communion des saints au ciel, dans la résurrection de la chair, dans tout ce qui fait l'accomplissement de l'homme en tant qu'homme, avec sa dimension sociale, sa dimension personnelle, humaine, sa dimension corporelle, sa dimension spirituelle. Et donc comment j'éclaire l'un et l'autre mutuellement, quoi. C'est important d'être chrétien globalement, un chrétien global, un chrétien total, hein, c'est un chrétien qui assume cette lumière du Christ dans toute sa vie, même si on nous bassine à longueur de temps le thème de laïcité, par exemple, c'est complètement anti-chrétien. C'est de l'athéisme, le fameux outil de sortie sur la laïcité. La laïcité qu'on nous présente aujourd'hui n'est pas une vraie laïcité, c'est pas la laïcité. C'est de l'athéisme, tout simplement, à mon sens. La laïcité, c'est rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ça prévoit que Dieu existe, la laïcité. Vous êtes laïque, que je sache, et vous agissez comme laïque dans le monde, en sachant que Dieu existe. Voilà. Donc être laïque, ça suppose l'existence de Dieu. Parce qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Entre parenthèses, dans ce qui est à Dieu, il y a César. C'est peut-être bien de le dire, que César, il aussi, il fait partie des choses qui sont à rendre à Dieu, quoi. Voilà. C'est ça la laïcité. Le schéma, il est ici, quoi. Il n'y a pas ce qui est à César et ce qui est à Dieu, mais il y a ce qui est à Dieu, et dans ce qui est à Dieu, il y a la partie que César gère tout seul. Mais César, il rendait compte à Dieu aussi. Voilà. Là, elle est dans la laïcité, bien comprise. Mais on est martelé par Non, mais on est marqué, qu'on le veuille ou non, on est complexé par rapport à la vie entre vie publique, vie privée, etc. Non, ça c'est vie privée. Non, mais si tu veux être athée, c'est ton problème. C'est ton... En privé, tu peux si tu veux. Nous, on est laïcs, donc on prévoit que Dieu existe. D'accord. Ceux qui veulent pas, ils peuvent chez eux, en privé, être athées. Ça me dérange pas. D'accord. Mais n'inversons pas les choses. C'est vrai. Et donc, bah, il faut se battre, même contre nous-mêmes, pour dire, mais nous avons une espérance à donner. Il faut déjà, nous, en être convaincus que ça existe. Cette vie éternelle, cette résurrection, c'est pas un mythe, c'est pas le pomme du peuple, c'est pas pour nous endormir, ou nous faire plaisir, ou nous consoler, ou nous occuper, c'est parce que c'est une réalité, et il faut pouvoir en témoigner. Une réalité du ciel qui est sur la terre, c'est pas banal, quoi. Voilà. De la terre, elle sera, pour tout ce qui est de l'ordre de l'amour, conservée au ciel. C'est déjà le ciel, en fait. Bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. À la tête des questions, je sais pas. Bah, le judaïsme, alors moi je suis pas du tout impro, hein. Donc je me garderai de... je ferai forcément des caricatures. N'empêche qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que le judaïsme d'aujourd'hui est un judaïsme dévoyé. Ce que je veux dire par là, c'est que le judaïsme annonçait le Christ. Ou pour dire la chose autrement, nous sommes les vrais juifs qui avons reconnu le Christ. Nous sommes de la race d'Abraham, des croyants. Ce que ça veut dire, c'est que le judaïsme, ça on peut le... Moi je n'ai pas cette connaissance, mais on peut le justifier historiquement, a dû se... Au lieu d'être en amont préparateur du Christ, il a dû, à cause du Christ, s'en différencier. Donc le judaïsme d'aujourd'hui, après il y a les judaïsmes, je pense qu'on est dans la caricature à outrance là, hein. Il a fallu aux juifs se distinguer de cette secte qui étaient les chrétiens, et qui reconnaissaient le Christ comme le Messie. Donc il a fallu s'opposer finalement au message chrétien, en disant non, c'est pas ça. Alors je dis les juifs, c'est sûrement faux, je dirais tout ça globalement, hein, mais le judaïsme aujourd'hui n'est pas le judaïsme d'Abraham et de Moïse, parce qu'ils reconnaissaient le Christ. Voilà. Dans le judaïsme, il y a l'attente du Christ. Alors ce qui est encore vrai chez les juifs aujourd'hui, qui attendent le Messie, sauf que le Messie, pour eux, c'est pas le Christ, quoi. Alors, ça devrait l'être en principe. Voilà. Alors par contre, je sais pas comment trop ils vivent cette tension entre ciel et terre, je peux pas trop dire, quoi. Je suis pas au salut. Ce que je veux dire, c'est que je peux être baptisé et puis rejeter ma foi et être le pire des pécheurs et rejeter Dieu, quoi. Voilà. Donc, le baptême en soi, sacramentel, n'est pas une garantie définitive. C'est toujours soumis à la liberté. Hein. Tant que je suis pas mort, précisément, je suis encore dans ce choix possible. Voilà. Quand est-ce que ceux qui ne sont pas baptisés peuvent rencontrer le Christ? Mais de manière certaine et directe. Bon, lors de la mort, en tout cas, qui est une rencontre avec le Christ. Un jugement, c'est une évaluation de ma vie au regard de la charité du Christ, parce que je le vois tel qu'il est, il me voit tel que je suis. Voilà. Donc il y a certainement une rencontre à ce moment-là. Le salut, ensuite, pour tout le monde, consiste à être associé à ce mystère du Christ mort et ressuscité, pour tout le monde. Après, il peut y avoir une rencontre indirecte du Christ dans toute vie. Hein, rappelez-vous Matthieu 25, 30 et les suivants, là. La séparation entre les brebis et les boucs. Entre ceux qui ont donné un verre d'eau et pas les autres, ceux qui ont donné un vêtement à celui qui était nu et pas les autres. Il n'est pas question de savoir qui était baptisé ou pas baptisé là-dedans. Et donc, en fait, on serait jugé sur l'amour, précisément, pas sur le baptême. Alors que tu fais ton baptême, pour ceux qui ont été baptisés, c'est la question. Mais pour ceux qui n'ont pas été, ils seront jugés comme nous, qui l'avons été sur l'amour. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait de l'amour, quoi? As-tu aimé ou as-tu pas aimé? Voilà. Et ça, c'est pas réservé aux baptisés. Il y a certainement des personnes, moi j'imagine ça comme ça, qui découvriront le Christ, alors qu'il n'aura jamais été annoncé à leur mort, en se disant, mais tiens, en fait, on se connaît. Parce que j'ai souffert, j'ai accepté la souffrance... patiemment, j'ai été généreux, j'ai subi des épreuves injustes et je ne me suis pas vengé, et ben ces personnes-là ont fait l'expérience du Christ quelque part. Voilà.
Ce qui est paradoxal, c'est que dans l'Évangile...
Au constat. Non, mais c'est vrai, c'est pas simple, ça nous dépasse largement, heureusement, c'est la preuve que c'est pas de nous qui l'avons inventé. piquant les prostituées, quand il est question d'eux pour le salut, c'est pas une accoutumance de Dieu au péché. Hein. C'est de dire, par rapport à ceux à qui il s'adresse, à savoir les pharisiens, qui sont endurcis, à la différence des publicains et des prostituées qui sont conscients de leur péché. C'est lié au fameux évangile aussi, à cette parabole où deux montent au temple pour prier, un pharisien et un publicain. Le pharisien dit « Regarde Seigneur comme je suis beau » et le publicain dit « Moi je suis un pauvre type voilà. ». Lequel devient juste le publicain. Il est un pauvre type mais il le sait donc il est sauvé. Le bon larron c'est un pauvre type mais il le sait donc il est sauvé. Le bon larron il fait quoi? Il dit « Moi je suis un pécheur, j'ai ce que je mérite, il reconnaît ses fautes. » Et il se tourne vers Jésus en disant « Tu peux me sauver ». Voilà. Mais il est sauvé. C'est pas les purs, le salut c'est les pécheurs pardonnés. Voilà le sens. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça sert à quoi? C'est l'autoroute du ciel en fait. T'as plein de chemins dans les broussailles si tu veux, mais si tu veux, t'as l'autoroute gratuite. Mais qui coûte cher parce que ça. Faut se donner un peu de sa personne quoi. C'est ça le baptême, enfin je veux dire, on est fait pour aller au ciel. Il nous faut des moyens surnaturels pour ça, c'est pas à notre portée à nous d'y parvenir. C'est forcément un don de Dieu. Mais il faut le recevoir, ce don de Dieu. Ça passe par le baptême, ça passe par tous les moyens de la vie chrétienne habituelle. Ceux qui l'ont pas, ça veut pas dire qu'ils sont ignorés de Dieu. Dieu a des moyens de sauver les hommes qu'ils ne connaissent pas, par d'autres moyens que nous ne connaissons pas par contre. Ce que nous connaissons, c'est le baptême. Donc ce que nous devons offrir, présenter, annoncer, c'est le baptême et toute la suite. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dieu peut s'arranger autrement, mais ça le regarde, nous on ne sait pas faire. Ce que nous on sait faire, c'est ce que Dieu a donné par l'Église, en fait, le baptême. Quoi. Qui donne déjà la vie éternelle, qui donne la foi, l'espérance, qui ouvre, qui fait entrer dans l'Église, qui ouvre à la communion des saints, voilà, qui est le début du salut. Quoi. C'est pas moi, hein. Je suis en train d'agoniser. D'autres questions? Sur ce que j'ai dit ou sur ce que j'ai pas dit aussi. Hein, si allez... Profitez-en. Hein. Attention quand même. Parce que... C'est un peu trap, ça. J'ai bien conscience. Un peu trapu, enfin un peu costaud, quoi. Mais c'est important qu'on n'ignore pas ce thème de la résurrection. Je trouve que il n'est pas beaucoup prêché et ça paraît être une chose marginale de la foi alors que c'est le cœur de la foi, quoi. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection. Hein, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien, quoi. Ça peut vous servir. Puis... Voilà. Vous êtes bien aimable. Donc on se retrouve à 8h30.